La Méridienne.
Allez, on accueille notre invité du jour et c'est Jérémy Fischer qui était avec nous en studio. Bonjour.
Salut Mathieu.
Tu viens nous voir pour nous parler de ton dernier livre,
ouais.
À la découverte de l'abbé Pochard, parcours, archives et témoignages. C'est qui l'abbé Pochard?
Alors l'abbé Pochard, c'est un personnage qui me passionne depuis bientôt 18 ans. Alors c'est très compliqué de faire court, puisque ça fait tout ce temps-là que je l'étudie, que je fais des recherches à son sujet. Alors c'est un franc-comtois, il est né dans le Jura, qui choisit la voie du clergé et qui devient prêtre au moment de la Révolution française. Et à ce moment-là, c'est pas forcément le bon moment pour devenir prêtre, puisque les révolutionnaires mettent en place des mesures anticléricales. Mmh. La nationalisation des biens du clergé.
Séparer l'Église de l'État, c'est ça?
Voilà. Ouais. Et il y a notamment cette loi de 1790, la Constitution civile du clergé, qui demande à tout ecclésiastique français, donc ça représente à peu près 70 000 personnes quand même, de prêter serment, en gros, à la République. Mmh. Et ça veut dire devenir des fonctionnaires et ne plus dépendre de Rome.
D'accord.
Donc, demander ça à un prêtre, c'est plutôt compliqué. Et il y a un vrai schisme dans l'Église française. Et certains prêtent serment et d'autres refusent. Et Pochard fait partie de ceux qui refusent de prêter ce serment en 1792.
Parce qu'à l'époque, c'est Rome, c'est pas le Vatican.
Oui, quand je dis Rome, c'est le Vatican.
Ok, ouais, d'accord.
C'était pour faire simple, mais effectivement. Et là, il y a un vrai schisme, et les révolutionnaires ne s'y attendaient pas, ils pensaient qu'ils allaient rentrer dans le rang. Ouais. Et en fait, il y a la moitié du clergé qui refuse. Et donc, pour mettre la pression, il y a un décret en août, le 26 août 1792, qui dit « Vous avez 15 jours pour prêter serment ou pour quitter la France sous peine de déportation. » Déportation en Guyane, etc.
Ok, aller travailler dans les colonies.
C'est ça.
Okay.
Certains ont été même fusillés. Enfin, ça a été très, ouais. Très compliqué pour eux. Et c'est à ce moment-là que Pochard, avec son frère, qui était aussi prêtre, décide de quitter la France, plus ou moins contraint. Il veut rester fidèle à ses convictions. Et vu qu'il est à Besançon, il part en Suisse. Mmh. Et là, il vivote avec tous ses camarades. Il pense que la Révolution, ça ne va pas durer, qu'ils vont pouvoir revenir. Faut savoir qu'à cette époque, toute l'Europe est coalisée contre la France. Hein. C'est l'époque de la bataille de Valmy, où il y a ce sursaut français. Mais on est entouré de rois, de royaumes, mmh. qui veulent réinstaller Louis XVI sur le trône.
D'accord.
Et du coup, en fait, ça dure plus longtemps que prévu. Et en 1796, il s'avère qu'il a une opportunité d'emploi. Alors je reviens un petit peu en arrière. Quand il était à Besançon, pendant 5 ans, il n'a pas choisi la voie classique, c'est-à-dire devenir prêtre d'une paroisse, comme la plupart des ecclésiastiques, mais il choisit l'enseignement et il devient précepteur d'une famille de la noblesse à Besançon.
Okay.
Donc c'est une famille qu'il est obligé de quitter en 1792. Et en 1796, vu qu'il a ça sur son CV, entre guillemets, il a une offre d'emploi pour aller en Prusse méridionale, actuellement en Pologne,
ouais.
Pour devenir précepteur dans une famille de la noblesse polonaise.
D'accord.
Et c'est là donc qu'il il part un peu plus loin.
Ouais.
Et il devient donc gouverneur, précepteur dans une famille de la noblesse polonaise, et il ne va jamais rentrer en France. Et c'est ça tout ce qui m'intrigue et tout ce qui m'intéresse dans son parcours, c'est pourquoi ce personnage qui a eu le destin, on va dire, brisé, modifié, transformé par la Révolution et par ses convictions, pourquoi il n'est pas parvenu à revenir en France. Alors qu'il ne cesse de dire qu'il veut rentrer en France, et surtout que la grande majorité des émigrés de l'époque, parce qu'il n'y a pas eu que des ecclésiastiques, il y a eu des nobles, il y a eu même d'autres couches de la société, mais la plupart des émigrés sont rentrés en France. Il y a eu deux vagues de retour en 1801-1802, au moment où Napoléon a signé un concordat avec Pie VII, c'est-à-dire ils ont réinstauré de nouvelles relations avec l'Église. En 1802, il y a eu une amnistie des émigrés. Donc beaucoup sont rentrés. Lui, il n'est pas rentré, il est resté à l'étranger.
Okay.
Et en 1814-1815, Napoléon perd le pouvoir et les Bourbons sont réinstallés sur le trône de France. Donc tous ceux qui étaient légitimistes, et beaucoup de prêtres étaient royalistes, ne pouvaient pas rentrer parce que Napoléon était un usurpateur. Eh bien, il y a eu une deuxième vague en 1815 de retour. Et la majorité des prêtres sont rentrés, ceux qui étaient encore vivants, beaucoup sont morts à l'étranger aussi, parce qu'ils sont partis âgés. Mmh. Et Pochard fait partie des rares, des très rares, qui ne sont pas rentrés. Donc ça, c'est fascinant d'une part. Mmh. Et ce qui est d'autant plus fascinant pour moi, c'est qu'ayant ce profil atypique, Il s'avère qu'il a documenté toute sa vie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il a écrit des mémoires, ouais. 4 tomes, qui relatent, pas au jour le jour, mais tous les mois, disons, les raisons pour lesquelles il n'est pas rentré, quelles sont ses activités, ce qu'il fait, quelle est sa vie à l'étranger. Okay. Donc ce qui est fascinant, c'est ça, c'est qu'on a un témoignage de première main, inédit en France. Et voilà. Et donc mon livre traite de ce sujet-là à travers des articles. C'est un recueil d'articles. Parce que depuis 15 ans maintenant, j'ai participé à des événements scientifiques, à des colloques universitaires, à des conférences qui m'ont amené à avoir des publications dans des revues internationales en France, en Pologne et au Canada. Et mon idée là, c'est de regrouper tous ces textes pour qu'ils soient dans un même livre, sachant que certaines de ces publications ont été publiées dans une autre langue. J'ai des publications en langue polonaise. J'ai une publication en langue allemande. Donc là, c'est des traductions françaises de ces articles-là, okay. Plus les articles qui étaient initialement en français. Mmh. Et donc, ça permet à toutes les personnes, et ils sont nombreux, j'espère, intéressés par ces thématiques-là, d'avoir tout regroupé dans un même ouvrage.
Ouais. Et c'est un livre, là, je l'ai feuilleté, scientifique, on va dire, avec les annotations, il y a les sources qui doivent être données.
C'est ça, il y a beaucoup de notes de bas de page, ouais. Puisque c'est la démarche historique qui consiste à prouver ce qu'on affirme. Et donc de permettre au lecteur de retrouver la référence bibliographique ou la source archivistique qui m'a permis de faire telle et telle analyse et de donner telle information.
Et alors, comment est-ce que tu as rencontré l'abbé Pochard? Enfin, comment est-ce que son histoire a croisé la tienne?
Alors, quand je faisais mes études d'histoire à Strasbourg, j'ai commencé à apprendre le polonais, parce que j'avais des origines par ma mère polonaise, mais je connaissais pas la langue. Donc j'ai commencé à apprendre le polonais avec l'idée qu'en master, donc en 4e ou 5e année, j'irais faire un Erasmus en Pologne pour pratiquer la langue. Et donc c'est ce que j'ai fait, et préalablement je m'étais rendu sur place, puisque en master d'histoire il faut un sujet de recherche, et l'idée c'est de trouver des sources archivistiques pour pouvoir écrire sur un sujet donné. Et moi je me sentais pas capable de travailler sur un sujet en polonais, ni en allemand, parce que c'est une région qui a été aussi pas mal occupée par la Prusse. Donc moi je cherchais des sources en français, j'étais sûr qu'il y en avait, mais pas forcément nombreuses, mais lesquelles. Et donc j'ai rencontré un professeur, le professeur Schramm, que je remercie au passage, qui a passé quelques coups de fil à droite à gauche.
Est-ce que vous avez des archives en français quelque part en Pologne?
C'est ça, et il y a un de ses confrères qui travaillait sur l'époque moderne et qui lui a dit, ah bah oui, il y a les lettres de l'abbé Pochard. J'avais entendu parler. Et donc, je suis allé aux archives à Poznan pour découvrir ce qu'on avait sur lui. Alors, au début, j'ai trouvé très peu de choses. Justement, c'est une longue enquête de plusieurs années pour reconstituer tout le fonds d'archives de l'abbé Pochard.
Des lettres, ça veut dire que c'est des échanges épistolaires.
Alors, justement, le premier dossier que j'ai trouvé, c'était les lettres reçues, écrites par son frère. Son frère était aussi prêtre, et donc ils avaient cette correspondance jusqu'en 1817, parce qu'à cette date-là, son frère décède. Et donc j'ai retrouvé ces lettres-là. Mais ça, c'était intéressant, mais ça racontait plus ce qui se passait en France que ce qui se passait chez lui. Et j'ai trouvé aussi un tome de ses mémoires, sachant qu'il y en a 4. Mais quand je suis arrivé, j'en avais qu'un seul qui racontait une partie de son histoire d'émigré. Et ça, c'était sous forme de lettre à un ami. Il raconte, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, mois par mois, pourquoi il ne rentre pas et quelles sont ses découvertes en Pologne, quelle est sa vie sur place.
Et
quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah là, il y a vraiment quelque chose à faire. On a vraiment un destin. On a un personnage qui a l'air hyper intéressant parce qu'il a beaucoup voyagé, il est très curieux, il est dans la noblesse de par son métier. Même si c'est un domestique, entre guillemets, il travaille pour une famille, c'est le chef des domestiques, quoi. Il est entre les domestiques et ses patrons. Et c'est hyper intéressant. Et il écrit beaucoup, il est curieux, et il y a une riche source à exploiter, non seulement pour écrire sa vie, essayer de la comprendre, mais aussi pour comprendre l'époque dans laquelle il a vécu. Et mon livre témoigne de ça, puisqu'il est composé de 3 parties distinctes. Une sur son parcours.
Ouais.
Effectivement, qui c'était, quel est son parcours de vie. Une deuxième sur ses archives. Justement, toute l'enquête, dans le détail, c'est l'un des articles dont je suis le plus fier, c'est vraiment une enquête sur ses archives, comment reconstituer un fonds d'archives, quelles ont été les problématiques. Et toute une troisième partie sur quel est le témoignage de l'abbé Pochard. à travers ces archives. Et donc,
quelle est la valeur historique de ces documents? Qu'est-ce qu'on ça nous apprend sur l'époque dans laquelle il a vécu?
Exactement. Et toutes les publications que j'ai pu réaliser jusqu'à ce jour sont assez diverses, puisqu'on y traite de questions politiques, sanitaires, sociales, etc.
Parce que j'imagine que même une ligne anodine comme je me suis lavé les mains ce matin, etc., et ben ça indique déjà que il y avait une des questions d'hygiène, qui se lavait les mains, etc. Et le moindre détail dans des mémoires, ça peut être un apport historique important sur les mœurs d'une époque.
Exactement.
Il y a quoi, par exemple, comme chose qu'on pourrait pas imaginer aujourd'hui comme
Il y a plein de choses. Moi, j'ai fait un article sur la mobilité. Ouais. Qu'est-ce que c'était la mobilité en 1796, quand il doit fuir, on va dire, la France, puis la Suisse. Voilà, il y a toutes ces questions-là.
Bah, il prend pas le train, déjà.
De se dire, il rentre pas, il passe 41 années en exil, dont 37 en Pologne, à l'époque en Prusse. C'est à 1000 km, il y a 1200 km de Besançon. Aujourd'hui, 1200 km, on le fait en une journée en voiture, si on est motivé et qu'on roule bien, en traversant l'Allemagne. Ben pour lui, à l'époque, c'était pas du tout ça, quoi. C'est beaucoup plus compliqué.
C'est un périple.
On va prendre plusieurs moyens de transport, on va marcher, on va prendre des bateaux sur les fleuves en Allemagne, la voiture commune, sachant qu'on peut pas réserver à l'avance, qu'il faut prévoir son repas ou avoir ce qu'il faut pour, lors des arrêts, s'alimenter. C'est très compliqué. Et puis, à un moment donné de sa vie, il s'est cassé la jambe, il y a des questions de santé. Comment on fait ce voyage-là quand on est vieillissant, qu'on a une blessure? Et clairement, pour lui, à ce moment-là, il lui faut un compagnon de voyage. Il ne se voit plus repartir tout seul. Donc, il y a plein, effectivement, de questions qui renvoient à notre société d'aujourd'hui. Là, je parle de mobilité, parce qu'on est dans une société ultra-mobile.
Ouais.
Et on s'en rend même plus compte aujourd'hui. Le matin, on est à Villefranche. Le soir, le lendemain, on peut être à New York. Quoi.
Ouais.
On est dans un autre monde. Et l'un des derniers articles que j'ai fait, justement, c'était à la fin de mon propre voyage autour du monde en autostop. Au moment de la pandémie, je me suis posé la question, qu'est-ce que dit l'abbé Pochard des maladies infectieuses mortelles? J'ai repassé au peigne fin toutes ces mémoires, toutes ces pages-là, il y a des milliers de pages. Et j'ai écrit un article sur la tuberculose, la petite vérole et le choléra. À l'époque de l'abbé Pochard. Et ce qu'il y avait de plus proche du Covid, c'est justement la pandémie de choléra. Ouais. Et ça, on l'a complètement oublié dans nos sociétés. Le 19e siècle a été rempli de pandémies, toutes les 7, 8, 10 ans de choléra, mais qui partaient du Bengale en Inde et qui ont franchi tous les océans et qui sont allés partout et qui ont fait des milliers de morts, quoi. Ouais. Des centaines de milliers de morts. Et quand la pandémie arrive en Prusse, où il arrive, ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui, il interprète ça, qu'est-ce que les uns et les autres mettent en place pour se protéger, sachant qu'ils n'ont pas l'avion, justement, pour partir loin, pour s'échapper. Et ce qui était intéressant, c'était de voir le parallèle entre ce que nous, on vivait
ce qui s'est passé
en 1831, quand la pandémie arrive en Europe centrale. Quoi.
Et alors, port du masque et passe sanitaire
ouais, carrément, la Prusse, en tout cas, a mis en... Alors, il y a plein de choses, je ne vais pas raconter tout l'article, il faut lire le livre et vous aurez tous les détails, mais deux, trois choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, le gouvernement prussien a mis en place une frontière sanitaire, quoi. Ils ont mis en place des soldats pour stopper...
Il ne faut pas que le choléra dépasse cette frontière-là et rentre dans le pays. Okay.
C'est ça, ils racontent que sur un pont, pour faire passer la monnaie parce qu'on a des dettes ou qu'on achète quelque chose à travers une rivière qui fait la frontière, et ben on passe l'argent dans un pot rempli de vinaigre, pensant que ça va désinfecter, etc.
D'accord.
Les gens ne sont plus... Il y a eu des quarantaines aussi. Poznan a été fermé, on pouvait pas, on a fermé les écoles, les théâtres, donc tout ça rappelait ce qu'on a fait chez nous.
Le confinement.
Et tout ça, voilà, c'est des méthodes qu'on utilisait déjà à l'époque et qu'on a...
D'accord.
Au goût du jour dernièrement.
Donc découvrir un personnage historique, les apports historiques que ça peut apporter, ce qu'on peut savoir sur cette époque grâce à ce personnage et les mémoires qu'il a laissées. Et puis aussi dans le livre, tu expliques comment est-ce qu'on trouve des informations sur une personne qui a vécu il y a 200 ans.
Oui, avec cet exemple très particulier. Et je raconte, ça c'est l'article numéro 3 sur les archives d'Abbé Pochard, je raconte, mais c'est vraiment, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi le récit de ma découverte, voilà, en 2005. Voilà comment je découvre et comment je mène cette enquête et quelles ont été les difficultés, parce que ça n'a pas été simple.
Pour trouver les quatre livres qu'il a lui-même écrits.
Voilà, sur... entre autres. C'est pas toutes ses archives, mais c'est le cœur de ses archives, et c'est des documents qui ont été éclatés, et ça raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands ont pillé les bibliothèques, ont pillé les châteaux où étaient conservés ces documents, et voilà, ça raconte l'histoire du 19e, du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'un chercheur français se décide de reconstituer ce parcours qui a été oublié.
Donc on suit son histoire et puis on suit son héritage, grosso modo, comment dire, justement ses mémoires, par où elles sont passées de main en main, de personne en personne, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. J'ai reconstitué le parcours de ces archives. Et c'est une question, alors moi je suis le spécialiste mondial, on va dire, mais en France, il n'y a personne qui le connaît, alors qu'en Pologne, depuis que je travaille sur le sujet, il y a des personnes qui s'y intéressent, et des personnes d'ailleurs qui m'ont aidé aussi à faire ces publications et à faire ces conférences, etc. Et actuellement, et ça j'en suis assez content, il y a un projet universitaire qui regroupe une dizaine de chercheurs, c'est pas rien, dans des domaines variés, ça peut être l'histoire, la littérature, l'archéologie, etc. Des chercheurs qui vont faire la transcription des mémoires en polonais. Donc d'ici 4-5 ans, ces mémoires vont être publiées, donc accessibles dans des livres en polonais. Alors moi je regrette juste que ce soit pas une version franco-polonaise, je me suis longtemps battu pour qu'elle existe, ce sera pas le cas dans le cadre de ce projet là mais d'ici 4-5 ans, les Polonais pourront découvrir ce que l'abbé Pochard, il y a 200 ans, écrivait sur eux.
Super. Bon, en tout cas, en attendant, on peut lire le livre À la découverte de l'abbé Pochard, Parcours, archives et témoignages. On le retrouve sur votre site internet.
Exactement. Vous pouvez le retrouver, l'acheter à la demande sur www.desracinesalapage.fr.
Parfait. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi, Mathieu.
Tu es conférencier aussi. C'est quoi il y a des rendez-vous à venir, des dates à noter pour l'instant ou en
septembre? J'ai donné pas mal de conférences au cours des deux dernières années. Là, je lève un peu le pied. J'attends des réponses. J'ai fait des propositions. J'ai fait une proposition dernièrement à la ville de Salins-les-Bains, qui est le lieu où est né l'abbé Pochard. Okay. Pour leur dire, ça fait 190 ans qu'est décédé un personnage né dans votre ville. Il est inconnu chez vous. Est-ce que ça vous intéresse de créer l'événement, de lui rendre hommage? J'ai pas encore les réponses, mais je suis en train de nouer des contacts sur ces questions-là. Après, sur les conférences plus liées au voyage écologique, en tout cas en autostop alternatif, on va dire, et sur les enseignements de mes voyages précédents, là j'essaie de plus développer mes relations avec les scolaires.
Ok, très bien.
Voilà.
Bon, et on retrouve toutes ces informations
sur mon site, des racines à la page.
Ton travail d'écrivain, de biographe.
Effectivement.
Sur ce site-là. Merci beaucoup encore une fois.
Mille merci à toi.
Et à très bientôt.
À bientôt, salut.
Calade. Ma radio. La Méridienne.